RMC.
Oh, c'est gonflé. Oh, c'est gonflé. Oh,
Basket Time.
On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie.
C'est fini. Champion d'Europe de basket, messieurs dames. Jacques Monclar est aux anges. On est tous aux anges.
Pierre Dorian.
Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket du mardi en podcast sur rmc.fr avec notre Dream Team du jour, Fred Weiss, Arnaud Valadon et Geoffrey Charpille.
Bonjour, salut Pierre.
Alors bonjour, attention, bonjour. Je dis pas Dream Team par hasard parce que c'est un spécial Team USA après la désillusion, la nouvelle désillusion de la Coupe du Monde et les déclarations de LeBron James. On a beaucoup de choses à dire sur Team USA.
Tu dis ça pas parce que Stephen n'est pas là.
Non, si, c'est ce qu'il veut dire en fait. On est Team USA version Coupe du Monde.
Alors, c'est-à-dire que Stephen, en fait, il avait le prénom pour être dans Team USA, mais alors pas du tout le nom. Donc en fait, ils se sont arrêtés à la mi-chemin.
Stephen Brown. Hein, mais...
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un raté de la Dream Team, c'est tout. Hein, on te salue, Steve. Et à la semaine prochaine, surtout, on compte sur toi. Alors, le programme dans ce Basket Time spécial Team USA, battre Team USA, est-ce toujours un exploit? Ils ont perdu 3 fois dans cette Coupe du Monde. C'est complètement incroyable, quand même. Non?
Si. C'est, oui. Enfin, je sais pas.
Au bout de 3 fois, on peut pas parler de 3 exploits.
Non, je dis ça, je dis rien. Exploits. Alors, Team USA au complet.
Il commence déjà à parler, t'as vu ça ou quoi?
Ce sera pas du tout pareil pour les Jeux Olympiques à Paris. En plus des nations européennes qui ont fait des progrès colossaux, la marche est-elle trop haute pour les Bleus au JO de Paris? Ce sera notre deuxième débat. Et puis, comme les amoureux de basket ont été enchantés par ce Canada-USA de la Coupe du Monde, je vous demande quel est pour vous le plus beau match FIBA de sélection de l'histoire, ou au moins de votre mémoire, puisque tous ces débats historiques sont forcément subjectifs. Et attention, je vous départagerai sur un quiz Team USA.
Intéressant.
Donc c'est à la fois pas très dur et un peu piège, forcément.
Il y a des dingueries?
Non, il n'y a pas de dinguerie, mais il y a
des charades. Il y a toujours des dingueries.
Est-ce qu'il y a une charade?
Il n'y a pas de charade.
Ah,
il n'y a pas de charade, on est allé à l'essentiel, j'ai envie de dire. C'est donc un Basket Time spécial Team USA. Et c'est un Basket Time qui va prendre donc l'accent américain. C'est parti.
Dylan Brooks, that looks good. It is. There is a nice shot by Shea Gilgeous Alexander. Shea back to Brooks for 3. Good! And Shea Gilgeous Alexander gets to the rim. Here he is. He fades. Good! Now Canada back in front. Schroeder goes downhill, gets it to the corner. Franz Wagner gets in. Schroeder steps back. Count it! The Germans are taking a 6-point lead. And the pump fake. Valanciunas goes up and scores. He got Kessler. Kuzmetskas right on cue. Oh, I don't believe it! You cannot be serious!
Alors, les Américains sont tombés de haut une fois de plus, j'ai envie de dire, et ça devient presque une habitude. En tout cas, ça n'est plus une rareté, ça c'est certain. Ça n'est plus un événement quand Team USA tombe dans une compétition mondiale. Battre Team USA, est-ce toujours un exploit? Voilà le débat qu'on va faire. Alors, 3 défaites en 2023, donc Lituanie, Serbie et Canada. Allez, peut-être qu'on peut les excuser pour la Lituanie. On les excuse ou pas?
Non, oui, non. Non. C'est Team USA, oui, tu perds pas.
C'était pas un match de poule décisif.
Peu importe, tu te mets dans la meilleure nation du monde, tu perds pas. C'est pas.
Mais en tout cas, Serbie et Canada,
l'Allemagne.
Ça a été un vrai choc. L'Allemagne, bien sûr, et le Canada, ça a été un vrai choc. Alors Arnaud, il y a bien sûr cette Coupe du Monde 2023, mais on a l'impression que les grandes nations mondiales ne font plus aucun complexe depuis plusieurs années, en fait, face aux États-Unis.
Non, il y a eu plusieurs phases. On va pas parler de la Redeem Team parce qu'on... On en reparlera peut-être tout à l'heure dans cette émission avec le choix des matchs. On est en 2008 où là, on reconvoque tous les grands parce qu'on a perdu le titre olympique de 2014. J'ai pris en point de départ pour les performances de Team USA. 2016, Rio, champion olympique, ils éclatent tout le monde, 15 points minimum pour toutes les équipes, plus 30 en finale contre la Serbie. À l'époque, l'équipe, Kevin Durant, Carmelo, Paul George, Jimmy Butler, Klay Thompson, André Dede Jordan, Kyrie Irving. Bah, donc
c'est
voilà.
Sûr que quand les meilleurs viennent, c'est plus facile. Hein.
Il y a exactement. Du monde. 2019, c'est là le premier écueil. Coupe du monde en Chine, la France bat cette équipe de Team USA en quart. C'est d'ailleurs la première fois que Greg Popovich est à la tête de Team USA. On a dit souvent souvent, et c'est peut-être le mal un petit peu de cette équipe ces dernières années, et quand on voit aussi en NBA, il n'y a pas forcément d'intérieur très dominant. En 2019, il y a quand même les deux joueurs de Boston, Tatum, Brown, Donovan Mitchell, Marcus Smart, Chris Middleton, Kemba Walker, le monégasque, et à l'intérieur, tu avais Plumlee, Brook Lopez et Miles Turner. C'est bien, mais pas top. Et
ouais, donc, alors l'intérieur, équipe... c'est quand même du troisième choix, là.
Ouais, c'est pas...
Le troisième choix, je sais pas s'il est le troisième choix, c'est juste qu'on ne forme plus de pivots aux États-Unis et que les meilleurs pivots sont européens, donc à partir de là, bah, tu prends ce qu'il y a parce que tu as formé tes pivots pour jouer le style NBA, c'est-à-dire que tu fais des pick and roll, tu cours, tu protèges le cercle, et que, eh ben, on s'est rendu compte avec un Milutinov par exemple, ben, qu'un mec qui joue de haut panier, c'est intéressant.
Et donc c'est ça le problème des intérieurs américains qui ne dominent pas finalement NBA, beaucoup d'étrangers. Donc 2019, battu par la France en quart de finale. 2021, ce sont les Jeux Olympiques, et évidemment c'est différent, parce qu'une Coupe du Monde pour eux, ça n'a pas la même valeur que les Jeux Olympiques. Et ils sont champions devant l'équipe de France 87-82, après avoir perdu le tout premier match de poule. Mais c'est une équipe qui venait seulement de récupérer ses joueurs champions NBA, les Bucks à l'époque. Il y a du Damian Lillard, Kevin Durant, Jason Tatum, Jrue Holiday, Devin Booker, Bam Adebayo, il est là l'intérieur dominant, Zach LaVine, voilà, son champion olympique. Pas une grande marge, hein, que 5 points, on n'oublie pas, face à notre équipe de France. Et puis, la dernière compétition, défaite en demi-finale donc dans cette Coupe du Monde aux Philippines. C'était la première pour Steve Kerr, plus de Greg Popovich. Ça, le coaching de Steve Kerr en a fait un petit peu débat. Il y avait pour cette Coupe du Monde Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Jalen Brunson, Austin Reeves, Jared Jackson Jr., Paolo Banchero ou encore Miles Bridges. Il y avait quand même des noms. Ça ressemble peut-être un petit peu à 2019, d'excellents joueurs NBA, mais peut-être pas de méga stars. En tout cas, il y a des futurs méga stars dans cette équipe de cette année.
Soit, mais déjà, je vais tout de suite mettre un bémol à ce que tu dis, des futurs méga stars, ok. Peut-être que c'est l'équipe de l'avenir, mais si c'est le cas, il me manque quand même Tatum et Booker. Je suis désolé. Hein.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire
des stars actuelles.
C'est-à-dire que, ok, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, peut-être qu'ils vont faire Brunson. Des super carrières, Jalen Brunson, soit. Mais déjà, tu devais prendre les meilleurs de cette catégorie-là.
C'est la Coupe du Monde, certains ne veulent pas venir.
C'est évident, et c'est pour ça que je connais mes complices ici, et je sais ce qu'ils vont dire. Ils sont dans la culture de l'instant, et ils vont dire ce n'est plus un exploit de battre Team USA. Non, effectivement, battre Team USA version C, D, Y ou Z, peu importe le nom qu'on va lui donner, non, ce n'est pas un exploit. Sauf que battre Team USA, la vraie, l'équipe A avec les meilleurs joueurs, ça reste un exploit. La preuve, depuis 2008, ils n'ont pas perdu d'Olympiade. Donc, à un moment, je veux bien qu'on puisse dire c'est pas un exploit de battre Team USA, ben, prouvons-le aux Jeux Olympiques. Hein.
Pour toi, c'est toujours un exploit
c'est
de battre Team USA.
Toujours un exploit quand on joue contre la meilleure équipe.
Mais c'est pas tout le temps la meilleure équipe.
Voilà. Par définition, Fred, un exploit, c'est quelque chose qui arrive rarement. Oui. Là, trois défaites en 15 jours sur le mondial.
Quand est-ce qu'ils ont perdu dans un vrai contexte aux Jeux Olympiques?
Ouais, mais là, on les attendait plus fort, là, quand même, Fred.
Oui, mais tu l'as dit toi-même. Le grand public a entendu parler des noms qui ont été cités, mais ce n'est pas des superstars, c'est des potentiels superstars, des très bons joueurs de basket, mais réellement, il n'y a pas mieux.
Non mais évidemment, Fred, je vais juste te rejoindre, pour moi, ce n'est plus un exploit, mais battre Team USA dans un match à élimination directe aux Jeux Olympiques, oui, ça c'est un exploit.
Merci. J'adore vous retourner le cerveau aussi rapidement.
Mais
j'aime beaucoup,
non, tu me retournes pas le cerveau.
Je trouve ça hyper sympa. Quand Stéphane n'est pas là, j'aime beaucoup.
Par contre, aujourd'hui, les battre dans un autre contexte, c'est-à-dire, si tu veux, phase de poule, JO, ou éventuellement...
Non, phase de poule, JO, alors tu l'as dit, et je vais mettre un bémol sur ça, les mecs arrivent, sortent de l'avion, ils vont jouer un match contre les Français.
Il y en a trois.
Ils ne sont pas préparés du tout, ils n'ont pas fait les choses comme il fallait, ils sortent des finales NBA, ça n'a rien à voir. Pour moi, je ne considère pas ce match comme référence, même si... Je considère que c'est un exploit.
Jean-Frère Poul, France-États-Unis à Tokyo.
Le problème, Pierre, c'est que je pense que les Américains, ils n'ont plus la bonne approche la bonne approche basket quand ils vont faire une compétition FIBA. C'est-à-dire que là, ils terminent le mondial avec une moyenne de points de 104 points, mais ils en prennent 110 face à la Lituanie, 113 face à l'Allemagne, 127 certes en prolongation face au Canada. Et je pense qu'aujourd'hui, en basket FIBA, les Américains n'ont toujours pas compris que ça ne sert à rien d'empiler des points si tu ne défends pas. Et cette équipe américaine, et je ne vais pas dire qu'elle n'a pratiquement pas défendu du mondial, parce qu'ils ont des qualités athlétiques qui leur permettent...
Mais ils l'ont pas fait, je suis d'accord avec toi.
Voilà.
Ils ne se sont pas servis de ces qualités athlétiques pour défendre, et ils ont subi. Et ça, c'est
surprenant. Moi, j'ai été un petit peu déçu du coaching de Steve Kerr et de Eric Spoelstra, c'est-à-dire que je m'attendais à voir certes une équipe des États-Unis baisser B ou C, on l'a vu, mais je pensais que ça allait minimum, un minimum défendre. Là, ça ne défend plus, et je pense que les Ricains, au-delà de l'aspect défensif qu'ils négligent totalement, je pense qu'ils s'encarrent totalement de la Coupe du Monde. Pour eux, il n'y a que les Jeux Olympiques qui comptent, et là, terminer quatrième du Mondial, bah c'est pas grave.
C'est un peu plus compliqué que ça. Ils n'ont gagné que 5 fois la Coupe du Monde, et alors, oui, ils s'encarrent, comme tu dis, pour te...
Enfin, ceux qui sont là, ils ont un peu la honte. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand il va... Tout le monde te dit on s'en fout, personne n'a envie d'y aller, etc. Sauf que quand tu reviens et que tu n'as pas de médaille, tout le monde te tombe dessus.
Mais c'est bien ça le problème de Team USA, c'est un petit peu la même musique. Alors je ne sais pas si on va se diriger vers une Redeem Team V2 en 2024 à Paris.
On a l'impression que ça a l'air de se profiler.
Puisque LeBron James serait apparemment motivé, et puis pour amener Stephen Curry, on en avait parlé, il n'a jamais été champion olympique. Il a déjà été champion du monde 2014, Stephen Curry, et 2010, mais jamais champion olympique. Ce qui, sur un CV pour un joueur Hall of Famer, ça manque un petit peu.
Pour un joueur américain, comme on l'a dit, pour eux, les Jeux Olympiques, c'est très important.
Mais voilà, ils se font rincer à la Coupe du Monde, on se dit, oh là là, attention, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Donc maintenant, tu vas me dire, ils vont mettre le holà avant. On se souvient de 2004 quand ils perdent contre l'Argentine. Ça avait été un big bang. Là, ils se disent, ah, bah, on n'a pas été bon à la Coupe du Monde. Bon, on va ramener la grosse équipe aux Jeux Olympiques. C'est un petit peu ça, et ça alarme un petit peu avant. Mais c'est sûr
en tout cas,
que...
c'est la volonté de LeBron James.
Ouais, c'est ce qui est rapporté par notamment Cham Charania.
Team USA va le faire. Forcément, pour eux, et je rejoins mes collègues, la Coupe du Monde, c'est pas très important, sauf quand tu la perds.
Pardon, ouais, alors après, ils sont quand même vexés parce qu'ils avaient une déclaration d'intention, et notamment avec Steve Kerr comme coach, qui était quand même de ne pas laisser la Coupe du Monde à qui que ce soit là. Avec cette nouvelle génération, et je pense qu'ils font plus qu'un manque d'intérêt, ils font toujours un petit péché d'orgueil envers
eux.
C'est-à-dire que là où les équipes européennes n'ont plus de complexe d'infériorité, eux ont toujours ce complexe de supériorité.
Ils ont fait des
efforts. Et ils pensent qu'ils vont gagner avec Anthony Edwards et Tyrese Haliburton.
Je suis pas d'accord avec toi. Ils ont fait des efforts. Sur la préparation, on l'a vu, ils sont
concentrés
un petit peu plus tôt. Ils ont joué, ils ont construit une équipe avec des pivots, des meneurs, etc., avec des vraies positions, ce qui n'était pas toujours le cas. Donc j'ai l'impression qu'ils ont fait quand même des efforts. Ils ont un peu plus respecté le jeu FIBA.
T'as vu l'utilisation de Walker Kessler, il a été utilisé uniquement sur le match pour la troisième place. Il a pris autant de rebonds que Jared Jackson Jr. Il y a eu un gros problème de coaching sur ce Team USA de Steve Kerr, qui a finalement pas tellement coaché. On n'a pas vu une progression. D'habitude, Team USA utilise les matchs de poule pour se mettre en jambe. On l'a vu aux Jeux Olympiques. Et à la fin, collectivement, il y avait du lien.
Mais justement, sur ce que tu disais, parce que tu parles de Kessler, sur les big men qui n'existent plus, enfin les big men dominants aux États-Unis, américains, hein,
oui.
Est-ce que les désillusions de Team USA peuvent finir par changer ça? Est-ce qu'on peut finir
sur la formation? Non, parce que qu'est-ce qui est important pour eux, c'est quand même la NBA. Donc ils vont continuer à former des joueurs pour ça.
Oui, mais il y a toujours des périodes. C'est-à-dire qu'en ce moment, tout est au shoot extérieur, mais ça peut aussi changer.
Non.
C'est pas non plus une fatalité, ça va pas durer toute la vie.
Si, malheureusement, parce que c'est mathématique. C'est mathématique, avec sur les stats avancées, tu te rends compte que le panier à 3 points vaut plus qu'un panier à 2 points, même si c'est un fort pourcentage.
Et ça, Jean-Luc Monchaud l'avait compris avant tout le monde.
Non, mais par rapport à ça, ça risque pas de changer tout de suite, en tous les cas. Ça risque de prendre
du temps.
Mais Kessler qui arrive à 21 ans, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que justement, il a ce potentiel de progresser, d'apprendre le jeu FIBA, et ça peut faire un big man.
Mais Pierre, c'est ce qui va se passer. LeBron James, ça, il est en train d'appeler tout le monde. Stephen Curry, tu viens. KD, allez, repars pour les Jeux Olympiques. Tu aimes ça, c'est ta compétition FIBA. Il va appeler Joel Embiid en disant, écoute Joel, on a besoin de toi pour Team USA, on est en train de monter une super team, viens. Bah, qu'est-ce qu'il va faire Joel Embiid?
Il va aller aux États-Unis,
bah
parce
voilà.
Qu'il attend que ce soit l'appel des Américains.
Je suis prêt à te le parier aujourd'hui que ça va se passer comme ça.
Non, chez nous. En même temps, on est tous d'accord. Hein.
Moi je suis Joel Embiid, il y a LeBron qui m'appelle.
Non, mais c'est pas ça. Moi je suis Joel Embiid, la France m'appelle. La France, elle passe pas le premier tour. Et j'ai les Américains qui... Tu peux arriver en sauveur en disant, ils ont pas eu la médaille la dernière fois, j'arrive. Et
on
grâce
va monter
à moi,
une équipe de folie.
Eh ben, moi, je
alors, quel serait, tiens, un petit jeu là, pour une petite parenthèse dans ce Basket Time, quel serait actuellement le meilleur 12 américain?
Allez, Stephen Curry.
Ok.
Bon, LeBron.
On fait le meilleur 12 par rapport à LeBron, tout ça?
Oui.
Parce qu'ils sont quand même.
Prenons poste par poste dans les arrières. Ouais. Donc,
Curry, Booker.
Jason Tatum.
Bien sûr, Tatum.
Curry, Booker, Zach LaVine, il peut éventuellement y être.
Bon, et Curry, Booker, Tatum, on en prend combien sur 12? On prend 4.
On prend 4, 5, 4, 5.
Moi, je sais pas si je prends pas Kyrie Irving.
Et Kyrie Irving.
S'il veut bien. Allez, oui, oui.
Il veut bien.
Oui, il veut bien. Tout le monde veut bien. Moi, là, c'est juste pour s'amuser.
Ça peut être.
Bah, surtout s'il y a LeBron, c'est vrai que Kyrie, on connaît la proximité entre les deux.
Ensuite, les ailiers.
Alors, j'avais les ailiers.
LeBron ou pas?
Paul George. Paul George a peut-être plus une fibre. Mais bon, faut qu'il soit en forme.
Ils sont pas super, ils sont un peu fragiles quand même, tu vois.
Moi, je pense à Anthony Davis qui peut peut-être se chauffer. Il a déjà aussi fait les Jeux Olympiques, moins sur plus sur poste 4 intérieur. Bam Adebayo, mais toujours.
Pour moi, c'est obligatoire.
Adebayo,
Joel Embiid. Bon, mais Joel Embiid, hein.
Adebayo, Embiid,
Draymond Green. Et Butler, les Brunson, tu l'aurais appelé, hein.
Butler, je prends
Jimmy
Butler,
B.
Bien sûr, parce que Butler. tu sais ce que tu auras grâce à lui.
Après, il y a du Chris Middleton, Jrue Holiday, Damian Lillard qui était là en 2021.
C'est combien, c'est trois, combien on prend trois pivots?
Honnêtement, tu fais comme
après,
tu veux.
Après, Davis, ça joue pivot en FIBA.
Trois pivots. Anthony Davis, c'est un 4, ouais, c'est l'avantage.
Mais le problème, c'est que
ça dépend qui tu mets à côté de lui.
Il est plus poste 4.
Là, on est à combien de joueurs, là, déjà?
Là, on est à 11. Curry, Booker, Tatum, Irving, Kawhi, LeBron, Paul George, Butler, ça fait 8. Anthony Davis a des Bayou Embiid.
Je peux peut-être un petit Anthony Edwards quand même.
Ah bah oui, oui.
Et Anthony Edwards. Allez, je pense ça vous va comme Dream Team?
Ouais, ouais. Valide. C'est une équipe honnête.
Ok. Alors ouais, on peut passer à la suite. Basket, là. On va imaginer que c'est cette équipe-là qui vient à Paris l'an prochain pour notre deuxième match dans Basket Time sur RMC.
Oh, Shay again. Oh my goodness, slippery.
Yeah, I mean crafty.
Shay, oh for three. Was that an ankle breaker?
Oh, that was, Jeff.
Oh. What a bounce pass from Luka, and it rolls around the rim and falls. Luka Doncic. Doncic, well, spinning, turning, shooting.
Doncic, he's spinning, fade away on the left. Glass helps him out. Zagas, oh, great find! Oh, goodness me! What a pass, Zagas to Schmidt.
Schroeder gets in, he goes fast! I don't think they were ready for that. Germany have done it! They have conquered the world!
Alors, la marche est-elle trop haute pour les Bleus au JO? Ça fait mal de se poser cette question un mois après s'être imaginé champion du monde, mais c'est comme ça, c'est la réalité. On va bien sûr parler de Team USA, mais aussi des autres nations qui ont brillé lors de cette Coupe du Monde. Donc, LeBron James a annoncé qu'il voulait mobiliser tout le monde. Donc là, on vient de se faire une petite Dream Team virtuelle qui est injouable. On est d'accord? T'allais ajouter quelque chose d'ailleurs, Arnaud?
Je vais dire voir cette Dream Team à Villeneuve-d'Ascq. Parce que la phase de poule, bien comme Villeneuve-d'Ascq, j'adore Lille. Mais je suis pas sûr que LeBron s'imagine arriver.
Ouais, mais LeBron, il a déjà réservé dans un estaminet là-bas à Lille. Il va être très, très bien.
Et alors après, on a quand même toutes les nations qui sont très évidemment l'Allemagne, la Serbie qui va ajouter Jokic à une équipe vice-championne du monde,
Misic,
quand même.
Misic.
Misic également. Misic, c'est certain qu'il y soit? C'est pas sûr, non?
Moi, je pense que si. Enfin, si lui a envie d'y aller, il y sera. Hein.
Après, t'as aussi Canada, Australie. Des 4 places encore à prendre.
Et Slovénie.
Pourquoi pas la Slovénie de Doncic? Bref, ça va être monstrueux. Alors, ils seront que 12, heureusement, pour nous, avec une ou deux équipes en dessous, peut-être. Mais est-ce que la marche est trop haute pour la France? D'abord, est-ce que vous imaginez les États-Unis venir au complet? Oui ou non? Parce que ça, pour l'instant, on est dans le virtuel. Hein.
Je pense que si LeBron James, c'est des infos issues des médias américains, Sam Charania, The Athletic, appelle les gars et les chauves, venez à Paris. Oui, ils vont arriver avec du matériel encore plus élevé par rapport à 2021. On sera, ouais, sur 2000, on sera sur du 2016, voire du 2008. Donc je pense qu'ils vont amener. Et puis LeBron James, pour un dernier bal, je pense avec Team USA.
Moi, j'ai juste une inquiétude, c'est par rapport aux blessures. Hein. Parce qu'il y a quand même des joueurs d'un certain âge, sans que ce soit péjoratif. Et il y a Anthony Davis qui est risqué. Tu as Steph Curry qui est pas de première jeunesse, KD qui est pas d'une première jeunesse, et LeBron. Rien que ces joueurs-là, oui, mais tu sais pas, après une saison NBA, s'ils sont prêts à enchaîner.
Même s'ils se blessent, Fred, t'as quand même du Damian Lillard, t'as du De'Aaron Fox, je veux dire, même si Stephen Curry et Jason
Jamorant,
ils viennent pas, voilà. Il y a quand même la génération américaine qui sera largement au-dessus.
L'énorme équipe. On peut ne pas l'avoir, on peut avoir une équipe A'.
Ouais, mais si c'est A', comme dit Jojo, c'est largement au-dessus de tout le monde.
Largement
au-dessus de l'Allemagne, de la Serbie.
Ils sont pas obligés de 40 minutes, hein. LeBron, c'est 20 minutes, ça,
oui,
c'est
bien
partage.
Sûr. Bien sûr.
Alors, et physiquement, LeBron va continuer à dominer en basket FIBA l'année prochaine.
Je crois que Fred a un petit bémol là-dessus. Je crois sur l'âge de Fred, sur l'âge de,
mais oui, mais
de LeBron.
Il y a bien un moment où sa domination va s'arrêter.
C'est exactement
façon,
ce que je me dis. C'est exactement ce que je me dis. Je me dis qu'à un moment, il a quand même son âge, à un moment ça te rattrape quand même, à un moment le jeu FIBA est compliqué quand même pour les joueurs américains, et il y a moins d'espace, donc je ne sais pas s'il pourra dominer autant, mais en tout cas, il a l'expérience.
Alors le jeu FIBA, il est compliqué pour les joueurs américains, notamment pour cette année, parce qu'il n'y en avait aucun qui avait une expérience FIBA, mais LeBron, ça fait quand même plusieurs Jeux Olympiques qu'il fait, il a fait des Coupes du Monde avec Team USA, je pense qu'il sait gérer, même si le temps de jeu est plus réduit, même si
il est intelligent, hein,
même si l'arbitrage est différent, parce que c'est important de parler de l'arbitrage.
Ton arbitre panaméen face à LeBron James, t'inquiète pas, qu'il va se passer contre lui.
LeBron, il est tellement au-dessus physiquement, je ne vois pas un gonze ou un joueur défensif qui aurait pu le stopper là, à Manille et aux Philippines.
D'accord. C'est juste ma question. Est-ce qu'après une saison NBA, est-ce qu'il sera prêt à enchaîner aussi bien qu'il avait pu l'enchaîner avant? Je ne sais pas. Ça dépend jusqu'où ils vont. Ils ont une équipe qui est plutôt intéressante.
Déjà.
Les Lakers, donc ils vont aller loin. Enfin, en tous les cas, je l'espère parce que je suis fan des Lakers. Donc, forcément, je me pose la question. Et en plus, il y en a un autre qui veut jouer. CP3, lui, il est un petit peu sur la jante.
Est-ce qu'il a son mot à dire aujourd'hui?
Je ne sais pas si on peut pas le prendre pour ce... Tu te rappelles pas, en 2016, nous, on a fait la tournée des Rolling Stones, hein, d'adieu des Rolling Stones avec la France. Pourquoi les Américains ne feraient pas pareil?
Ouais, s'il faut une tournée d'adieu, il faut le dire. Hein, dans ce cas-là, on se remet à y croire, nous. Hein.
Mais en fait, quand j'entends LeBron, ça ressemble à
ça. Éventuellement, les joueurs un peu plus âgés de Team USA m'inquiètent moins que notre équipe de France, parce que je sais que c'était un petit peu ta marotte.
Oui, c'est le débat, Pierre. C'est le débat du jour. Si on s'intéresse aux autres nations qualifiées, il y a du très très lourd. Aujourd'hui, il y a pas mal de nations qui sont devant la France.
Alors, sachant que à la Coupe du Monde, c'était les meilleures nations d'un continent, deux ou une, qui se qualifiaient. Donc nous, on était déjà qualifiés, heureusement, parce que sinon, il aurait fallu faire des pré-TQO pour l'équipe de France avec notre résultat. Nous avons une équipe africaine, le Soudan du Sud, coachée par Royal Ivy, un ancien joueur NBA.
Très impressionnant.
Et attention, c'est vraiment une nation émergente. Canada, États-Unis ont poinçonné leur ticket pour Paris 2024. Le Japon, Allemagne, Serbie et Australie. Le reste sera à définir avec des tournois qualificatifs olympiques au printemps 2024.
Juste une question, je ne sais pas si tu as la réponse, mais les 4 billets qui restent à distribuer, c'est par zone géographique.
TQO mondiaux.
C'est mondiaux, donc voilà. Tu peux avoir 4 nations européennes.
Absolument.
Qui s'ajoutent. Ah ouais.
Donc tu peux avoir Slovénie, Grèce selon les TQO, mais oui, la Slovénie avec Luka Doncic.
C'est ça, c'est là que c'est chaud. C'est que finalement, on aurait préféré des TQO par zone.
Ouais, c'est clair. Ah ouais.
Et quand tu vois juste pour revenir à la France, quand tu vois les 4 demi-finalistes, quand tu vois USA, Canada, Serbie,
Canada qui a joué sans Murray. Hein.
Donc c'est-à-dire que, mis à part l'Allemagne qui semble être au taquet de ce qu'ils peuvent proposer, mais sur un plan de travail sur 3 ans, t'as la Serbie, comme tu disais, où il manque des joueurs. Le Canada, où il y a des joueurs qui manquent aussi et qui peuvent être hyper intéressants. T'as parlé de Wiggins, par exemple, qui est un joueur hyper intéressant. Et Team USA, ben pour moi, on n'est pas à ce niveau-là.
De comparaison, pour Tokyo, les 4 vainqueurs de TQO, c'était 4 Européens. La République tchèque, l'Allemagne, la Slovénie, l'Italie. Les Tchèques qui avaient battu les Canadiens chez eux, qui avaient organisé le TQO à la maison. Mais là, bon, Canada, ils y sont et ils vont pouvoir se renforcer, puisqu'il y a Jamal Murray qui n'était pas là, et éventuellement Andrew Wiggins. Déjà que c'est très fort.
L'Italie n'avait pas battu la Serbie, je crois.
Si.
C'est ça. Hein.
À Belgrade, absolument. Ouais. Et les Italiens, attention, on a vu qu'ils ont encore fait une belle compétition avec Podzeko.
Est-ce que Nikola Jokic est capable de transcender une équipe de Serbie comme il le fait avec Denver? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a suffisamment de choses en magasin en Serbie pour être champion olympique avec Nikola Jokic?
Je ne sais pas. Vraiment, je me suis posé la question quand j'ai vu cette équipe. Ça joue très très vite, ça court dans tous les sens. Est-ce que c'est le jeu de Nikola Jokic? Je ne sais pas.
Et ils ont mal joué à l'Euro l'année dernière. Pešić, le coach serbe, qui a finalement trouvé une très belle alchimie sur cette Coupe du Monde. Tu l'as dit, ça jouait bien, vite, ça partageait le ballon. Il y a un an, Misic était là, j'ai un doute, mais en tout cas Jokic était là, Jokic, il n'avait pas réussi à le faire jouer, à faire jouer cette équipe serbe avec Jokic.
Et pourtant, j'ai l'impression que Milutinov a été beaucoup utilisé en poste haut à la Jokic, mais en plus mobile, avec cette faculté plus de courir. Moi, je ne sais pas si vraiment cette équipe serbe sera meilleure
garantie,
avec Jokic ou pas.
Garantie.
Je ne sais pas.
Ça peut
je demande à voir.
Ça
peut faire rêver, évidemment, sur le papier, c'est extraordinaire. Sauf que j'ai vu une équipe qui courait vraiment beaucoup, beaucoup.
Oui, mais un duo Bogdanovic-Jokic, je pense qu'à partir du moment où tu intègres Nikola Jokic dans une équipe, la physionomie de jeu, les systèmes, ils changent. Parce que Jokic est tellement dominant, il domine la NBA.
Je suis d'accord avec toi, Geoffrey. Donc si ça change, t'es pas sûr du résultat. T'es sûr de ce que t'as vu, t'es sûr de ce que t'as eu, mais tu sais pas ce que
les
équipes
vont avoir. D'accord, faut qu'ils viennent. Hein. Ben, ils ont plus de chances d'être champion olympique avec lui que sans lui.
Est-ce qu'un Bogdanovic n'est pas plus libéré quand c'est lui qui est le numéro 1, qui a tous les ballons et qui joue?
Après, ce résultat à la Coupe du Monde peut faire bouger un petit peu les statuts que tu donnes à chacun en vue des Jeux Olympiques.
Ouais, hein, mais sauf que
de faire cette performance sans Jokic, sans Misic, les absents, bon.
Arnaud, Jokic est quand même double MVP plus MVP des finales. Son statut ne va pas changer tout de suite quand même.
Bon, alors maintenant, donnez-moi des raisons d'y croire pour la France, parce que c'est vrai qu'après cette Coupe du Monde, on part de loin.
Moi, j'en ai
maintenant,
une.
On sera à domicile. Donc les gars, ce qui est sûr, c'est qu'ils seront tous ultra motivés, que tu auras l'appui du public et que c'est une échéance à laquelle le basket français pense depuis 7 ans. Alors, dit comme ça, peut-être ça peut paraître ridicule, mais malgré tout, Alors, comme la flèche du temps de Fabien Galthié, Vincent Collet.
On n'en a pas dans le basket.
A aussi un parcours pour amener cette équipe de France-là à être prête. Alors, manifestement, là, il y a une étape qui a été complètement ratée. On a donné les raisons, hein, manque de jeu collectif, manque de défense, peut-être aussi même un manque d'implication.
L'humilité.
Soit, mais c'est arrivé peut-être au bon moment. C'est-à-dire que ça peut au moins nous éviter que la désillusion, elle tombe dans un an au
Jeu
de Paris.
Ou la prête de ses lunettes, j'ai peur.
Est-ce que vous avez des bonnes raisons d'y croire à me donner dans Basket Time pour la France au JO en 2024?
Alors moi je veux bien. Moi j'en ai absolument pas. Moi j'en ai zéro. Je pense que Fred va sortir juste un nom, c'est-à-dire il va dire on attend tous Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, pour moi il y a deux interrogations. C'est est-ce qu'il viendra? Ça on ne le sait toujours pas. Et la deuxième c'est dans le basket FIBA. On va me dire qu'il a été super bon avec Embed Click Elite, c'est super, il a roulé sur tout le monde, c'est très bien. Mais dans le basket FIBA, il a encore, pour moi, rien démontré et qu'on ne vienne pas me dire que les matchs de qualification pour la Coupe du Monde face à l'équipe B ou l'équipe C de la Lituanie, ça comptait parce qu'on en a fait des débats ici dans Basket Time en disant ces matchs, ça ne sert à rien. Donc en fait, oui, il a fait 30 déballes.
Quand tu les perds, ça sert à quelque chose. Hein,
oui, bien évidemment, mais en fait, face à des sombres joueurs lituaniens. Mais non, mais en fait, je sais parce qu'on a eu ce débat tout à l'heure avant le podcast.
Tu m'as menacé, dis la vérité, tu m'as menacé devant tout le monde.
Je t'ai dit.
Après, un Geoffrey Charpie qui menace Fred Weiss, c'est pas non plus très impressionnant.
Ah, attention, on peut se rebeller. Mais pour moi,
il doit y avoir 40 kilos d'écart. Donc
40
Pour faire une analogie rugby, c'est. Pour faire une analogie rugby, c'est Bennett Sebes qui se ferait menacer par Maxime Lucu. Quoi.
C'est un peu ça, ouais.
C'est
Lucu est beaucoup plus costaud que je joue.
Oui. Exactement. Puis si je peux faire une Coupe du Monde, pourquoi pas. Hein. Voilà. En fait, moi, Fred m'a vendu tout à l'heure la présence de Victor Wembanyama. Ça peut faire espérer l'équipe de France pour quelque chose aux Jeux Olympiques.
Bah, ça sera s'il n'est pas blessé, il va venir. Hein.
Oui, mais après, encore une fois, est-ce qu'il viendra?
S'il n'est pas blessé, il va venir. S'il y a LeBron James qui vient.
Mais il avait annoncé qu'il viendra au mondial cet été.
Oui, mais c'est différent. C'était sa première. Honnêtement, quelque part, je le comprends de pas être allé à la Coupe du Monde, mais je ne comprendrais pas du tout de ne pas faire les Jeux Olympiques.
Des Coupes du Monde à l'autre bout du monde, il va pouvoir en jouer d'autres. Des Jeux Olympiques à la maison, non.
Mais on est d'accord qu'il serait venu. On aurait peut-être gagné du temps sur les JO de 2024. Quand
merci,
même.
Pierre.
Fred,
non, mais Pierre,
tu dis les choses.
Pierre, je peux comprendre ton opinion. Et évidemment, je pense que personne ici pourrait dire on est content qu'ils ne soient pas venus à la Coupe du Monde. C'est faux.
Mais moi, je suis pas sûr qu'on aurait évité le crash avec Victor Wembanyama.
Non, peut-être pas évité le crash, mais travailler avec lui dans une compétition officielle, ça n'a pas de prix.
Je peux pas te le retirer. Sauf qu'à un moment, s'il se prépare, qu'il devient un meilleur joueur et qu'il vient au JO encore meilleur, eh ben, je valide.
Alors, quelles sont les raisons d'y croire? Parce que Wembanyama, qu'est-ce que ça va apporter tout de suite, très vite? Puisque il faut que ça marche tout de suite pour être sur le podium olympique.
C'est pas du tout mon argument, mais à part.
Ah, bah, si t'as d'autres arguments, vas-y.
Mais c'était aussi, ça peut faire partie des arguments, évidemment. Parce qu'il va transformer le jeu, forcément. Il va nous permettre d'avoir cette capacité offensive, parce qu'on se rend bien compte que.
Des options différentes déjà.
Fournier, c'est un peu compliqué quand même de trouver des points.
L'alternance extérieure-intérieure.
Il n'y a pas du tout d'alternance. Alors parfois il y en a un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas suffisant. Non, moi ce que j'allais dire, c'est le public, c'est le fait d'être à la maison, c'est le fait d'être transcendé et le fait de commencer à Lille. Alors vous allez dire, c'est ridicule quand on fait les JO de Paris de commencer à Lille et que ça va nous motiver. Eh bien Lille, c'est une vraie salle de basket. Lille, il y a une vraie ambiance. Dans le Nord, on aime le basket. Il va y avoir une folie populaire.
Incroyable.
Et moi je suis persuadé que ça va nous transcender.
Moi j'y crois. Pourquoi? Parce que on a pris un gros coup sur la tête. On va retrouver des valeurs, l'humilité notamment, c'est ce qu'a dit Vincent Collet, et puis surtout notre ADN, on doit défendre. On n'a pas défendu un cachou durant cette Coupe du Monde, on prend plus de 88 points à chaque fois. Donc moi, voilà.
On prendra un meneur ou non?
Ça, non, c'est un autre débat.
C'est lié.
C'est lié, mais moi je pense que ça va pouvoir remettre à zéro un certain nombre de choses, et notamment peut-être que on est de toute façon une équipe qui doit défendre. Tu vas dire de manière générale, dans le basket, c'est la défense qui fait gagner des titres.
Non, mais objectivement, là, je te rejoins parce que concrètement, on le sait, notre force offensive, elle est quand même limitée. On ne trouve pas toujours des paniers. Et ce qui peut nous rassurer, ce qui peut nous mettre dans le bain des matchs, justement défensivement, avoir des paniers faciles, récupérer des ballons, les empêcher de marquer. La relance, évidemment. Donc oui, je pense que c'est important de
bien défendre. Après, il faudra se poser des bonnes questions et le poste de meneur.
Alors,
Une stat très intéressante. Les derniers MVP de compétition sur 2014, 2019, 2023, la Coupe du Monde. 2014, Kyrie Irving. 2019, Ricky Rubio. 2023, Dennis Schroeder. Voilà.
Un meneur.
Je crois que j'ai tout dit.
Alors, justement, maintenant, vous allez me dire quel 5 et puis globalement, quel joueur vous voulez voir. Et là, je vous demande de mettre de côté le côté affectif. C'est-à-dire qu'évidemment, on aime tous énormément Batum, Fournier, De Colo, Gobert. Mais si vous estimez que la meilleure équipe de France est sans eux, il faut le dire. Et il faut le dire maintenant. Okay.
Ou taisez-vous à jamais, c'est ça.
Alors, qu'est-ce qu'on met ? Quelle serait l'équipe la plus à même de rebondir et d'avoir un vrai impact sur ces Jeux Olympiques ? On va évidemment mettre Victor titulaire à poste 4.
Victor, on peut le mettre tout de suite, je pense.
On est d'accord ?
Oui.
Est-ce qu'on met Frank Ntilikina meneur ou est-ce qu'on met Thomas Hurtel ou est-ce qu'on en met un autre ?
Moi, je commence par Andrew Albici.
Et ben moi, je mets Andrew Albici comme Fred.
Parce que j'ai envie d'une assise défensive, parce qu'il y a l'expérience.
Frank Ntilikina, et défensivement, il t'apporte beaucoup.
Je suis d'accord. Sauf que je le fais rentrer en cours de match, Frank Ntilikina.
Ah ouais.
Okay. Et Andrew moi, Albici, je vois éventuellement...
Ce qu'il veut pas, commencer, ça veut pas dire que tu joues plus, hein. C'est juste que pour te mettre dans de bonnes conditions...
Moi, je vois éventuellement Ntilikina à la place de Batum dans un 5 de départ. Et Nicolas Batum qui sort du banc.
Alors, mais du coup, Ntilikina, quel poste ?
Bah, moi, je mettrais... Bah, si on doit faire vraiment Thomas Hurtel titulaire, mais bon, enfin voilà, si on peut dire les choses. Si tu cherches les meneurs français, bah, Thomas Hurtel, Evan Fournier, Ntilikina pour démarrer à la place peut-être sur un rôle de stopper pour apporter de la défense, parce que Hurtel Fournier, c'est pas non plus le meilleur attelage défensif à voir avec Albici, je suis d'accord avec Fred. Wemby et Rudy Gobert à l'intérieur pour démarrer.
D'accord. Tu restes avec Gobert. Tu gardes Gobert dans le 5 majeur.
Tu veux mettre qui ?
Bah, Mustapha Fall.
Mustapha Fall, déjà, est-ce qu'il va revenir ?
Oui, mais si tu lui donnes un rôle de titulaire, il vient.
Et ensuite.
Mais il n'est pas titulaire Olympiakos, déjà. Non, il rentre généralement en cours de match.
C'est difficile pour lui. Ça va très, très vite sur les pick and roll. On l'a vu. Il peut être limité défensivement et c'est se tirer une balle dans le pied de commencer avec quelqu'un qui, défensivement, va avoir du mal. Donc, je pense que Gobert, c'est ton socle. Je pense que Wembanyama, c'est important aussi. En 1, moi, je pars avec Albici. Je prends Evan Fournier parce que on n'a pas de mieux sous la main, clairement. Et après, je mets un mec un peu avec de l'énergie. Je suis fou, mais un Isaiah Cordinier pour commencer, moi, pourquoi pas.
Qui est finalement celui qui a peut-être après, marqué le plus de points. Ouais. Dernier arrivé.
Tu gardes Gobert.
Je garde Gobert, évidemment.
Et tu mets Victor titulaire.
Oui.
Pas Gershon.
Gershon, je le fais sortir du banc aussi.
Gershon sur le banc. Très bien. Et Jojo, à toi.
Alors pour moi, bien évidemment, la raquette composée de Victor Wembanyama et Rudy Gobert. À la main, je rejoins Fred, je prends Andrew Albici. En poste 2, pour moi, ce serait Evan Fournier. Et en poste 3, il me faut un mec qui défend. Et en fait, comme Fred, peut-être aller encore un peu plus loin dans la folie, mais un mec comme Yacouba Ouattara, parce que Isaiah Cordinier, il peut apporter des points offensivement, mais j'ai besoin d'un mec qui soit là uniquement pour défendre.
Mais c'est l'un ou l'autre.
C'est pas assez fort offensivement.
Oui, mais on n'arrête pas de dire qu'il faut que cette équipe de France.
Il y a juste un nom, il faut quand même en parler. Il y a Nando De Colo, évidemment.
Ce qui est très important, c'est que vous mettez tous Nando et Batum sur le banc, tous.
Oui,
ah
oui.
Je pense que c'est la réalité.
Il y a une différence entre le 5 qui démarre et le 5 qui finit.
Voilà, c'est comme je te le disais dès le départ. Ça ne veut pas dire, parce que je t'ai cité ces 5 pour commencer, qu'ils vont jouer plus que les autres.
Moi, Batum, il finit le match. De Colo, il finit le match.
Est-ce que Wembanyama finit le match ?
Oui.
Est-ce que Gershon finit le match ? Non, du coup.
Non.
Ah, peut-être à la place de Rudy,
ça dépend de l'opposition.
Moi, tu peux avoir un Gershon sur le terrain et à Wemby plutôt en poste 5 pour finir le match. Ça dépend vraiment de la configuration de la partie.
Ça dépend
d'ici
de l'opposition.
D'ici un an, est-ce qu'on a une révélation, un ovni pour reprendre encore la comparaison avec le rugby et Fabien Galthié ?
Après avoir, est-ce qu'un Killian Hayes peut confirmer ou pas Détroit ?
Je demande à voir Killian Hayes, parce que moi, j'aimerais beaucoup pouvoir l'intégrer.
Non, si d'ici Soko, j'y crois pas.
Koulibaly ?
Est-ce que Ryan Rupert qui a un contrat garanti à voir. Bilal Koulibaly, je pense qu'effectivement, ça peut être la grosse cote. Il va entamer sa saison avec les Wizards. Et c'est un joueur que Vincent Collet connaît très bien pour l'avoir coaché cette saison au Metropolitans 92. Bilal Koulibaly, on peut mettre une petite piécette, je pense.
En plus, c'est une éponge. Koulibaly, il apprend, il progresse à chaque fois. Franchement, ça serait hyper intéressant de voir
Koulibaly. Pour finir, votre pronostic pour la France au JO 2024, Arnaud ?
Demi-finale.
Et podium ou pas podium ?
T'as un match à gagner sur deux.
Non, t'y crois pas. Ok, j'ai compris.
Troisième.
Beau. Fred.
Médaille en chocolat,
quatrième.
Ouais.
Okay. On est à peu près tous raccord. Dernier carré au moins.
Écoute, ce serait déjà pas mal d'aller en demi-finale. Hein.
Moi, je prends. Hein.
On prend, non ?
On prend, bien sûr.
Au moins, ce serait des beaux matchs, des belles émotions.
Tu as une pièce en l'air et
oui, tu peux faire une
troisième. Je ne veux pas croire que ce crash, il ne faut pas oublier tout ce qu'on a fait. Alors, certains vont dire l'Euro, on a été à deux doigts de prendre la porte contre la Turquie et l'Italie, mais on est vice-champion olympique. On est vice-champion. C'est vrai. Mais bon, même en n'étant pas ouf, on est allé en finale. Alors après, on a perdu contre l'Espagne, ok. Mais on restait sur une médaille de bronze au dernier mondial il y a 4 ans. On a quand même eu des résultats, donc on ne peut pas tout de suite être devenu nul du jour au lendemain.
Allez, un peu d'histoire dans Basket Time sur RMC.
6-point game, 6 minutes to go. Beijing gold medal game, US. Navarro into the lane, hits the runner. Good shot, kicks it out for a wide open 3. Darren Williams and order is restored.
Booker. Puts up. Oh, that's a big one for Germany.
Kobe, strip. This whole sequence will lead to a nice dish from Kobe to Dwight Howard. Marc Gasol clears the way for his brother right there. Powell sizes up the damage and knocks down the 3.
Navarro penetrates, drives, scores! Spain have fought back and taken a 1-point lead. Will Germany find Nowitzki? Has he got one more shot in him? He puts it up. Oh, Dirk Nowitzki! 3.9 seconds.
Navarro on the go again. La Bamba.
La Bamba.
Alors, c'est un Basket Time spécial Team USA. On va parler des plus beaux matchs de sélection FIBA. Parce que le Team USA Canada a enchanté les amoureux de basket. Les Canadiens se sont imposés en prolongation. Tu n'es pas d'accord avec ça, Geoffrey ?
À partir du moment où il y a 127 à 113, non, ça ne m'enchante pas. Ça m'enchante pas
prolongation.
Et l'ancienne voilà. École, Geoffrey.
Ouais. Bah oui, je veux que ça défende, je veux que ça mette des brins.
Ça,
voilà,
c'est les arbitres qui veulent que ça défende.
Donc tu vas aller m'expliquer que mon match qui a fait 118-107 n'est pas le plus beau match de l'histoire ?
Ça, c'est différent.
Ah bon ?
Ça, c'est différent.
C'est différent.
Parce que c'est une finale olympique, c'est encore plus beau, c'est à Pékin.
Ouais, mais il y avait prolongation en plus là, donc c'est normal qu'il y ait plus de scoring.
Là, 127 pions en finale du mondial.
Les arbitres sont jamais cohérents dans leurs décisions et c'est normal.
Quel est pour vous le match de sélection en basket FIBA ?
Je me suis fait attaquer.
Le plus beau, celui que vous avez préféré en tout cas. Tiens, Fred, tu démarres.
Mais alors, j'ai choisi un match de demi-finale de l'Euro 2005 qui oppose l'Espagne à l'Allemagne. En fait, j'ai voulu rester un peu dans le thème, évidemment. C'est un très beau match de bout en bout, mais à 5 minutes de la fin.
Et Nowitzki Gasol.
Non, Nowitzki Navarro.
Oui, d'accord. Navarro non, mais pour les figures de ces équipes-là.
Laisse-moi faire le décor, hein, tranquillement. Donc l'Allemagne est obligée de passer un 10-0 à l'Espagne parce qu'à 5 minutes 19 de la fin, ils sont menés 68-59. D'accord. Donc ils passent le 10-0 et là. La Bamba, par la balle à la Bamba, va marquer 2 points. Donc on se retrouve à 14 secondes de la fin avec 1 point d'avance pour l'Espagne. Et donc le ballon arrive à qui ? Dans un match où il y a Dirk Nowitzki ? Bah Dirk Nowitzki. Il est défendu par Garbarossa, il met le shoot à 3 secondes 9. Les Espagnols ne reviendront jamais. Ils s'imposent dans ce match, ils iront ensuite perdre contre la Grèce. Et ça c'est un très mauvais souvenir, donc je ne citerai pas exactement l'histoire par rapport à ça, mais juste pour recontextualiser, game winner de Nowitzki, 27 points à 10 sur 20 au shoot, dont 5 sur 10 à 3 points, 11 dans le dernier quart-temps, okay, 7 rebonds, et de l'autre côté, on a un Navarro qui lui hein, aussi est fantastique, avec lui aussi 27 points à 6 sur 16 par contre, et 15 sur 16 au lancer franc. Un match fantastique de basket où tu as vu deux immenses stars du basket s'affronter.
Et avec de la défense, là.
Avec de la défense, avec exactement ce qu'il faut. Et en plus, les Espagnols étaient tellement énervés d'avoir perdu à la dernière seconde, comme ça, ou quasiment à la dernière seconde, qu'ils jouent contre la France ensuite pour la médaille de bronze. Et la France leur remettra 30.
Tu finis sur une bonne note, malgré bien sûr le traumatisme de la demi-finale.
Je ne me rappelle plus.
Arnaud, quel est le plus beau match FIBA de sélection dans ta mémoire ?
Alors visiblement, je suis éliminé d'office si on prend les critères de Geoffrey Charpy, puisque c'est un match qui s'est terminé sur le score de 118-107 pour les États-Unis face à l'Espagne, 24 août 2008 à Pékin, la finale des Jeux Olympiques. Quand on voit le niveau de jeu, alors on va me dire oui, ça défend peut-être pas parce que les Espagnols finissent à 50% au tir, les Américains à 60%. C'est la Redeem Team, cette équipe de la rédemption pour retrouver le titre olympique pour les Américains perdu en 2004 face à l'Argentine en demi-finale, l'équipe américaine. Chris Paul, Jason Kidd, Deron Williams, poste 2, Kobe Bryant, Dwayne Wade. Sur les ailes, LeBron James, Carmelo Anthony, Tayshaun Prince, Michael Redd. À l'intérieur, Chris Bosh, Carlos Boozer, Dwight Howard, 11 All-Stars à l'époque.
Michael Redd, il se demande pourquoi il n'a pas,
pas
joué.
Il n'a pas joué une minute. Coaché par Mike Krzyzewski, le mythique coach de Duke, venu à la rescousse de cette équipe américaine. En face, l'Espagne, les frères Gasol, qui étaient un petit peu jeunes encore à l'époque, surtout Marc. Pau était un joueur affirmé à Memphis et ensuite aux Lakers. José Calderón, Ricky Rubio, Juanca Navarro et Rudy Fernandez. 69-61 après la première mi-temps. du talent incroyable. On se souvient de cette action, le panier à 4 points de Kobe Bryant, une intensité, la Chine qui était en plus à l'époque portée par Yao Ming, donc sur le marché, c'était une intensité folle. Et finalement, les Américains, les Espagnols n'ont jamais été totalement décrochés dans cette partie, même s'ils sont à moins 12 à un moment en première mi-temps, mais ils sont restés plus ou moins en contact. Mais le talent, quand je vous ai donné les noms de cette équipe américaine, elle est presque aussi belle que celle de 92, quelque part.
Elle est incroyable, mais surtout, c'est pas dans ce match-là où Kobe Bryant rentre dans
Oui, dans Pau, son coéquipier aux
Lakers.
Juste
pour lui expliquer, ok, moi, c'était mon ami en général, mais
en
pas
fait,
là.
C'est cette action au début qui est racontée dans un magnifique documentaire, je crois, sur Netflix, sur la Rudy Team.
Dream Team, ouais.
Kobe Bryant dit, les gars, on va à la guerre. Regardez ça, c'est mon coéquipier, Pau Gasol. Il vient lui mettre un énorme coup dans le buffet un moment sur un écran sans ballon.
Honnêtement, il sert à rien ce coup. C'est juste pour montrer.
Oui, pour montrer, regarde. Pau Gasol se retrouve au sol en regardant. Mais, Kobe, non.
Et dans ce documentaire, on voit LeBron qui dit, on savait pas quoi dire. Là, on avait la bouche ouverte.
Tu es son coéquipier pour les États-Unis. Bref, un niveau de jeu incroyable. Je vous ai donné un petit peu les stats et ouais, franchement, et de l'avis de tout le monde. Globalement, si on fait un sondage, c'est ce match-là qui ressort.
Ouais, oui. 3 sur 4, sauf Geoffrey qui trouve qu'il y a beaucoup trop de points sur
voilà,
la
mi-temps. Donc Geoffrey, toi, tu vois pas pour ce match-là. Donc pour toi, quel est le plus beau match de basket FIBA de sélection
France-Lettonie.
Qui s'est terminé France-Russie 42-43. Non. Et là, vraiment,
mais alors, je vais remettre les choses dans le contexte. La finale olympique de 2008, pour moi, c'est le plus beau match de l'histoire du basket FIBA. Et Arnaud a raison de le prendre. Mais vu qu'il fallait en choisir un autre, Pierre, moi, je vais plutôt te parler d'un match et d'un tournoi qui ne va pas forcément rappeler des bons souvenirs à Fred. On est alors en 2007 pour l'Eurobasket. Le décor est splendide à Madrid. 15 000 personnes en fusion pour une finale entre le pays hôte, l'Espagne et la Russie. Sur le parquet, on retrouve déjà les frères Gasol, Rudy Fernandez, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, Sergio Rodriguez, Victor Kriapa, J.R. Holden ou encore Andrei Kirilenko côté russe.
Très russe, J.R. Holden.
Oui, bien évidemment. Les deux équipes se retrouvent donc en finale après s'être affrontées en phase de poule. En phase de poule, l'Espagne l'avait emporté 81-69. Là, en finale, le match est presque parti sur le même standard. Les Russes, ils sont distancés rapidement. Ils ont 11 points d'écart. La suite du match est totalement cadenassé, ça me plaît. C'est un match physique, intense, brutal, une vraie guerre de tranchées, 20% de réussite à 2 points pour les Espagnols, 5 sur 20 à 3 points pour les Russes, jusqu'à ces 30 dernières secondes devenues mythiques. La Russie de David Blatt est alors menée 59-58, et le bien nommé J.R. Holden intercepte un ballon sur Pau Gasol. Peut-être qu'il y a faute, peut-être qu'il n'y a pas faute, ça c'est un autre débat. Donc à ce moment-là, J.R. Holden récupère le ballon et il reste 26 secondes à jouer.
Taken away by J.R. Holden. He was waiting for it. They can hold it for one shot. Russia can shock the world champions. They're leading 59-58. Holden. Zach Harper shooting. Jarrell Holden penetrates. Puts it up. He makes it. Russia have taken the lead.
Eh bien, vous l'avez donc entendu, l'Américain de naissance naturalisé russe en 2003 inscrit donc ce panier. Il y a un petit moment de blanc dans le son qu'on vient d'écouter.
J'étais dans la salle, c'était un truc de fou. C'était ça crie en tous les sens d'un seul coup, toute une salle de 10 à 15 000 personnes, j'ai vu, ça s'est tu. C'était impressionnant.
Exactement. Et J.R. Holden, en fait, il réussit à inscrire ce panier, sauf que le panier, il tape la planche, il tape le cercle, il monte tout en haut du panier. Et en fait, il y a un suspense insoutenable. Fred vient de l'évoquer. C'est très particulier à ce moment-là dans la salle à Madrid. Sauf qu'il reste 2 secondes à jouer et Pau Gasol a quand même la balle de match à ce moment-là.
The inbounds pass. It comes to Gasol. He puts it up. Oh! It almost went in. Russia has stunned the world champions. They have won the gold medal. It is the most incredible finish to a game I have ever seen. Russia have come back.
Ah, c'est en tout cas le plus beau finish qu'il ait jamais vu, le monsieur. Hein.
C'était son premier match.
Absolument. Et donc la légende Pau Gasol échoue lors de sa dernière tentative. La Russie remporte son premier euro depuis l'éclatement de l'URSS. Et malgré une ligne de stats calamiteuse à 4 sur 13 au tir, J.R. Holden devient donc une légende de la Russie, tout comme Andrei Kirilenko, élu MVP du tournoi.
Finale Eurobasket 2007, donc entre la Russie et l'Espagne. Merci Geoffrey, le quiz.
Je vais voir. De toute façon, on va s'amuser. C'est le but du quiz.
Qui termine dernier.
Vous avez le cerveau abîmé, c'est pour ça, c'est tout.
Ah, je sais qui c'est.
Moi,
c'est,
je sais pas.
C'est très facile. Je sais qui c'est.
C'est pas vrai, c'est pas des poissons rouges, c'est des calamars.
Je l'avais lu en plus.
C'est des calamars. Plus, Steve, ils sont là, ils attendent que tu donnes la bonne réponse.
Tu veux tirer du lit par l'emmerdeur de service.
J'avais Fred qui me regardait comme ça, j'avais l'impression d'être devant un bocal avec un poisson rouge.
Je parle des pyramides parfois et j'ai pas connu.
Je t'ai rarement entendu parler des pyramides.
Eh ben, c'est que tu m'écoutes pas assez, c'est ça notre problématique. On n'a pas de discussion hors basket, Stephen, toi et moi.
Ramsès 2 ou.
Tout en camon.
Qui était le plus fort? C'est le quiz spécial Dream Team, spécial Team USA plus exactement. Donc j'espère que vous avez révisé.
Pas du tout.
Alors c'est dur de réviser parce qu'on connaît pas le
sujet. Donc Stephen n'est pas là aujourd'hui, on a une chance de gagner.
Alors Stephen n'étant pas là, vous avez effectivement toutes vos chances. Là, c'est comme la Coupe du Monde quand les États-Unis envoient l'équipe bis. Alors on va démarrer en révisant les fondamentaux un par un. Vous allez me donner un des membres de la Dream Team 92. Évidemment, vous n'avez aucun temps ni pour réfléchir ni pour préparer parce que là, ça doit fuser. On démarre Arnaud.
Michael Jordan,
c'est à toi. Geoffrey.
Scottie Pippen,
c'est à toi. Fred.
Christian Lettner,
mais garde-le pour la fin.
Mais non, je...
C'est bon, évidemment, Arnaud.
Magic Johnson.
Magic, ok. Geoffrey.
Larry Bird,
c'est bon. Fred.
Chris Mullin,
mais il donne tous les difficiles, mais stratégie, Fred. Arnaud.
Rodman.
Rodman, pas du tout, il est éliminé, le bougre. Geoffrey.
Ouah, ça a commencé à être compliqué.
Non, ça commence à être très facile.
Jordan, Pippen, Magic Johnson, Bird, Mullin.
Allez, si tu me trouves pas ça vite fait, je passe à la suite.
Ouais, hein. La suite. Robinson.
Alors, Robinson, ça. Attention, là tu peux faire la grosse diff d'entrée de jeu, Fred. Ensuite, on enchaîne.
Stockton,
évidemment, on enchaîne.
Clyde the Glide,
évidemment, on enchaîne.
Je sais plus qui a été cité, ça le problème.
Ah bah oui, c'est ça le problème. Mais...
On
n'a pas dit Pat Ewing, ça fait un point de plus. Il vous massacre, il en reste deux.
Il en reste deux que j'ai pas cité.
Que on n'a pas cité. Ouais.
Karl Malone,
et voilà, il en manque un.
Moi je pense que je l'ai.
Eh oui, mais peut-être que Fred va l'avoir.
Charles Barkley,
Le massacre. Je compte
en même temps,
les points.
On avait un an, quoi.
Je compte les points.
Donc t'as pas la télé chez toi ?
Deux points pour Arnaud, deux points pour Geoffrey, 8 points pour Fred. Alors là, Fred, c'est France-Grèce 2005. Hein.
Merci de me rappeler
là,
ça,
si
vraiment,
perds,
ça me
c'est
plaît.
Que t'as fait exprès. Hein. Ensuite, dans un autre style, je vous donne le nom d'un basketteur américain. Vous me dites si oui ou non, il est champion olympique. C'est bon, tout le monde là ?
C'est bon.
Arnaud, Allen Iverson. C'est pas si facile. Hein.
Il n'est pas champion.
Il perd
en 2004.
Bronze 2004. Geoffrey, Ray Allen.
Ray Allen n'est pas champion olympique.
Il est champion olympique en 2000.
Face à Fred en 2000, exactement.
Ah, c'est un Team USA spécial Fred.
Mais c'était pas si facile parce qu'on ne l'a pas revu après 2003. L'essentiel de sa carrière, c'est après ça.
Ah, c'est pour ça que j'ai dit non.
James Worthy, Fred.
Non.
Il n'est pas champion olympique. Attention, Fred, là, il est chaud.
Ouais, là, c'est...
Tim Duncan, Arnaud.
Il est champion.
Eh bien non, Duncan, bronze 2004. Lamar Odom, mon cher Geoffrey.
Lamar Odom, il est champion olympique.
Il est champion du monde, mais il n'est pas champion olympique. Et Kevin Love, Fred.
Allez, oui, il est champion olympique.
Évidemment, à Londres, en 2012, ouais. Oh là là, le massacre continue. Allez, on passe à des questions pour tout le monde. Quel champion olympique 2008 joue actuellement
Kevin Durant
au Léopard de Taoyuan.
À Taïwan.
Olympique d'Aaron Williams.
Dwight Howard.
On se fait rincer.
Je pense à Stephen qui écoute ce quiz là en ce moment. Il a téléchargé Basket Time.
Mais en fait, j'aurais eu la réponse. Il aurait trouvé 50 fois plus vite. C'est tout le truc.
On va faire des chauds patates là quand même. Hein.
Qu'est-ce qu'il dit ? Mais c'est pas vrai, ils sont nuls. On fait le compte ou non, c'est indécent là, non ?
Ouais, non, ça sert à rien.
On fait le compte quand même juste par sadisme. On en est à 4, 8, 11 à 3 points pour Arnaud et 2 points pour Geoffrey. Alors, quel est le point commun au sein de Team USA entre Steph Curry, Rudy Gay et Derrick Rose ?
Ils sont pas champions olympiques.
C'est pas ça que j'attendais.
Entre Steph Curry, champion du monde, Steph mais pas Curry, champion olympique.
Rudy Gay.
Ah, moi j'ai précisé champion du monde, mais pas champion olympique.
S'il y a plus précis que ça, et je vous en demande plus, messieurs.
Ils n'ont jamais fait d'Olympiade.
Non, c'est pas ça.
Champion du monde en 2014 et
ils ont
là
une
en 2016.
Particularité et c'est positif. C'est pas dans le négatif. C'est pas ils sont pas ceci, ils sont pas cela. C'est quelque chose de très positif qui est unique dans l'histoire de Team USA.
Leur champion à 3 points.
Non,
champion
ils
du
font
monde
plus et de passe que de.
Non, tu vas trop loin là.
Champion du monde et c'est champion NBA la même année.
Non, on se rapproche. Ça commence à être un peu plus ça l'idée.
Champion du monde et MVP.
Champion du monde et MVP.
C'est pas ça.
C'est meilleur marqueur de Team
Alors,
USA.
Bien.
Meilleur marqueur NBA et meilleur marqueur de Team
non,
USA.
Non, ça concerne que Team USA, ça concerne pas la NBA. Est-ce que Geoffrey Charpy joue dans
ils, ont, ils ont été meilleurs marqueurs. Ils ont été meilleurs marqueurs deux fois.
Ah, tu te rapproches, Marc, tu te rapproches de très près là.
Ils ont été meilleurs marqueurs.
Non.
Trois fois.
Non.
Ils ont été meilleurs marqueurs.
Ils non. ont été meilleurs marqueurs sur deux mondiaux, ouais.
Non, non. Mais c'était avec le deux fois, t'étais tout près de la bonne réponse. C'est très simple en fait.
Ils ont fait deux fois de suite champion du monde, back to back.
C'est les seuls qui sont double champion du monde. Voilà.
2010-2014.
Je te l'accorde Arnaud. Okay.
Donc ça me fait 15 points de plus, c'est ça ce que tu avais dit.
Ensuite, une question, une réponse. La réponse est étonnante, je vous donne un petit indice. Dream Team 96, d'accord. Donc on est 4 ans plus tard. Qui termine meilleur contreur des Jeux Olympiques? Eh ben non, justement.
C'est pas un Américain?
Si, si, c'est un Américain.
David Robinson.
C'est vraiment pas celui qu'on attend.
Charles Barkley.
Donc c'est un arrière.
Donc c'est un arrière.
Eh oui.
Michael Jordan.
Qui a très peu joué en plus.
Un arrière qui a très peu joué.
96.
Ouais. Et il est meilleur contreur devant Pippen et O'Neal.
Un arrière.
Il faisait partie de la Dream Team 92.
Peignard Laouet.
Il faisait partie de la Dream Team 92. Stockton.
Ah, Stockton.
Bien sûr. Révisé les gars.
Voilà.
Révisé.
C'est bien Geoffrey. Tu reviens. Bon alors ça va être dur de gagner. En 98. Il n'y a pas de joueur NBA à la Coupe du Monde à cause du lockout. Donc, quel joueur de cette équipe, qui finit quand même médaille de bronze, joueur non drafté, fera ensuite une très belle carrière NBA, 14 saisons, deux fois All-Star, et portera successivement et dans l'ordre le maillot des Hornets, des Bulls, des Pacers,
Boozer,
non.
des Kings O'Neil. Pendant 6 saisons,
B.J. Armstrong,
de nouveau des Bulls, des Rockets, et des Timberwolves.
Wow.
T'as dit ouais, quoi toi, Arnaud?
J'ai dit Carlos Boozer, mais non.
Non, mais je pense que t'as un peu l'idée. L'idée est sur la bonne voie, j'ai envie
Donc
de dire.
Donc Hornets.
Ouais, c'est surtout les Kings, 6 saisons.
Mike D'Antoni?
Mitch Richmond?
Non.
C'est pas Mike D'Antoni. Pas Chris Weber. Non, c'est un intérieur. C'est un
Chris
pivot.
Weber? Non, t'as dit Weber.
C'est un pivot. Ouais.
Vas-y. C'est un pivot.
C'est un pivot.
Ah.
Qui jouait parfois avec un bandeau.
Pivot qui jouait avec un bandeau.
Blanc. Deux fois All-Star.
Stade de Maillot.
Bon à mi-distance.
Blanc, oui.
Non, bandeau blanc.
Ouais,
vous l'avez pas?
Ah, bandeau non. blanc.
Non, pas le bandeau blanc, lui.
Oui.
Blanc.
Ah.
Vous l'avez pas?
Non.
Brad Miller.
Ah ouais. Ouais, ouais. Oui, les Bulls, oui, oui.
Et donc, on va finir. Bah, c'est gagné hein, pour Fred. Hein. Je pense que c'est gagné. Hein, parce que pour la question à multipoints, il y a 10 points maximum, mais personne ne va mettre les 10 points, puisque je vais vous demander un par un le nom des Français qui ont battu Team USA en 2019. On démarre avec Geoffrey.
En 2019, il y avait Andrew Albici.
En 2019, il y avait Andrew Albici. C'est bon. Arnaud?
Frank Ntilikina.
Frank Ntilikina, c'est bon. Fred?
Fournier.
Et Fournier, bien sûr. Geoffrey?
On ne
va pas s'arrêter là quand même, Geoffrey.
Non, mais on avait Rudy.
On avait Rudy, oui, heureusement. Arnaud.
Nicolas Batum.
Nicolas Batum, quand même. Hein. Vous n'allez pas perdre avant de donner Batum, quand même.
TLC.
Non. Ah, ils vont revenir. Il n'y a pas Luau Cabarro.
Ah ouais.
Donc, nous repassons à Geoffrey.
En 2019.
Attention, il n'y a que 10 bonnes réponses parce que deux joueurs n'ont pas joué hein, la finale.
Ah, intéressant.
On joue contre Team USA, oui, parce que j'en ai un qui n'a pas joué. Mais...
Il en reste 5.
Je suis assez serein quand même.
Quel Lascar a pu jouer en 2019?
Ouais, il y en a quand même un qui est facile. Hein. Les autres sont plus difficiles.
Nando?
Nando, oui, merci. Allez, à toi Arnaud. On se dépêche, il n'y a plus que
Poirier.
Poirier n'a pas joué, donc c'est pas bon. À toi, Geoffrey.
Alors.
Geoffrey, tu peux au moins dépasser Arnaud, puisque vous êtes à égalité là.
Peut-être qu'en 2019, il y avait.
Oui. Non.
Il y avait.
Peut-être.
Non.
Allez, tente un nom.
Bon, je sais pas. Isaiah Cordinier.
Non. Il y avait Amatembaï.
Ah oui, oui. La Berry qui a joué.
Lucho Laberry, Mathias Le Sor et Axel Toupane. Fred, c'est un triomphe. Bravo,
Fred.
Et à la semaine prochaine.
Merci, Stephen. RMC Basket Time.